Quand nous allons communier, le prêtre nous dit en nous présentant l'hostie, le corps du Christ. Le Christ lui-même a institué l'Eucharistie pour qu'on donnât son corps et son sang. Mais pourquoi le Christ nous donne-t-il son corps? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas simplement la vie du Christ? Pourquoi est-ce que le Christ a voulu nous donner son corps avec tout son poids de matière, pourrait-on dire? Pourquoi est-ce que le Christ a voulu nous donner son corps, et c'est dit par ses paroles, le corps du Christ, pour sauver l'homme. Pour sauver l'homme, parce que l'homme est fait d'histoire. La vie d'un homme, c'est une histoire qui se déploie dans le temps, des événements qui se succèdent, qui s'imbriquent. J'apprends à marcher, j'apprends à parler, je retiens des choses, je les mets en pratique, il y en a d'autres que j'oublie. Or, ce qui en nous est porteur de notre histoire, c'est particulièrement notre corps. C'est notre corps qui est témoin de notre histoire. Et donc, parce que l'homme est une histoire, le Christ qui veut sauver l'homme rejoint l'homme dans son histoire. Et parce que c'est le corps qui est porteur de l'histoire de l'homme, Jésus nous donne son propre corps pour rejoindre notre corps qui est le lieu de notre histoire. Parce que nous en faisons l'expérience, notre esprit, lui, peut mélanger toutes les époques, et j'allais dire nos émotions encore plus. On peut rêver que l'on a 15 ans, on peut avoir peur comme lorsqu'on avait 5 ans. Notre corps, lui, porte la trace de l'histoire. Ça se voit, par exemple, c'est telle cicatrice qui nous est arrivée après tel événement, c'est telle cerne que nous avons sous les yeux à cause de la fatigue accumulée, ça peut être la gueule de bois suite à la soirée d'hier. Notre corps porte notre histoire. Le corps du Christ vient nous associer jusque dans notre histoire à son engendrement par le Père. Le corps du Christ nous est donné pour associer notre vie à l'histoire sanctifiée par le Verbe, à l'histoire que lui-même sanctifie, et il vient saisir notre histoire pour que notre histoire, notre vie, puisse être tournée vers le Père. Voilà, le principal effet de cette union, c'est de nous associer à son engendrement par le Père. Notre vie, dans la sienne, est engendré par le Père. Finalement, l'histoire, on pourrait dire, de Pierre, l'histoire de Jacques, l'histoire de Jean, l'histoire d'Isabelle, devient, parce que nous recevons le corps du Christ, elle devient l'histoire de Pierre du Christ, de Jacques du Christ, de Jean du Christ, d'Isabelle du Christ, nous en lui, lui en nous, et grâce à cela, nous devenons les engendrés du Père. Alors au premier abord, vous allez dire, mais ça semble très théorique ça, hein ? Oui, je suis engendré par le Père, le Fils me participe, me partage cet engendrement, et alors concrètement ? Mais concrètement, le Père est la source de toute vie. Il est celui qui reconnaît toute vie, qui en atteste la bonté. Souvenez-vous de la parole prononcée au baptême de Jésus. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets tout mon amour. » Le Père est celui qui atteste qui nous sommes et l'amour dont nous sommes investis. Eh bien, en l'absence de l'engendrement du Père, l'homme est perdu et sans repère. Pourquoi ? Parce que l'histoire d'un homme est marquée aussi d'événements où il a été confronté à l'injustice, où il n'a pas été aimé, ou alors où il n'a pas su aimer. Et cela est déroutant. Quel sens donner à ma vie ? Est-ce que ma vie est un échec ? Est-ce que ma vie est juste stérile ? Est-ce que ma vie est juste un paillasson pour les pieds des brutes ? Qui attestera de la bonté de ma vie ? Qui sera le repère pour moi ? Et lorsque l'homme ne sait plus tourner les yeux vers le Père des cieux, alors l'homme cherche des substituts. Il a besoin d'être reconnu, il a besoin que l'on manifeste que sa vie a une importance, une bonté. Alors il va chercher parmi les siens des groupes, des espèces de substituts. Aujourd'hui, il y a une mode, c'est celui d'obtenir le statut de victime reconnue. Mais alors, on entre bien souvent dans une surenchère entre les frères qui n'ont plus de père pour les fonder et les refonder. Lutter contre l'injustice, cela a du sens, mais lorsqu'on ne fait que se jeter une culpabilité mutuelle à la figure, cela ne mène nulle part sinon à un catalogue des injustices. Certains vont dire « luttons contre le racisme anti-noir », d'autres se répondent « luttons contre le racisme anti-blanc », le racisme anti-jaune, le racisme anti-personne handicapée, mais finalement, on ne retrouve pas la fraternité. Finalement, ce sont juste des groupes qui s'opposent les uns avec les autres, espérant une reconnaissance. Mais cette reconnaissance, nous la trouvons dans le regard du Père seulement. C'est le regard du Père qui nous établit comme frères. D'où l'importance que Jésus nous donne accès à cet engendrement du Père, source de toute vie, qui fonde et qui refonde et qui manifeste, j'allais dire, la bonté et la justice de notre existence. Le lavement des pieds auquel Jésus se livre, qui est un acte de grande humilité, n'a rien à voir avec le fait de se mettre à genoux devant quelqu'un d'autre. Le lavement des pieds auquel Jésus se livre n'a rien à voir avec le fait de flatter un égo ou d'humilier un égo. Le Christ s'abaisse, lavant les pieds de ses disciples, pour qu'ils aient part avec lui dans le royaume. Il y a un fruit réel attendu, et il manifeste que s'abaisser pour que ce fruit ait lieu n'est pas un obstacle. Comme on pourrait dire, quelqu'un qui travaille la terre n'a pas peur d'avoir les ongles noirs et les mains sales de terre après. C'est le moyen qui passe pour que le fruit ait lieu, pour que la plante soit en terre et puisse grandir. On n'a pas eu peur que cela se produise, d'avoir ses mains noires de terre. Le corps du Christ, qui est l'histoire du Christ, nous permet de ressaisir notre histoire, et que notre histoire blessée puisse devenir une histoire sauvée, engendrée du Père. Ainsi, le Christ, en nous donnant son corps, permet que la parole du Père, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je mets tout mon amour », rejoigne chacun des événements de notre vie, jusque ceux qui nous ont les plus blessés dans notre corps, dans notre dignité. Le corps du Christ vient me rejoindre, ce corps qui passe de la mort à la vie, c'est lui et lui seul qui nous permet de retrouver la certitude de la bonté de notre être, du sens de notre vie, et qui nous permet de retrouver et d'établir une fraternité avec les autres. C'est l'amour du même Père qui permet la fraternité, et en partageant un même pain, nous devenons un même corps, les fils d'un même Père. Sinon, les supposés frères ne sont que des rivaux qui se battent pour de la reconnaissance, des rivaux qui se battent pour les ressources limitées de la terre. Alors en ce jour de la solennité du corps et du sang du Christ, le mémorial de la passion du Christ nous invite à deux actes. Alors, je parle depuis un moment, donc il y a un peu de fatigue qui peut se faire, mais je voudrais attirer votre attention sur ces deux actes qui nous sont donnés, qui étaient relevés dans la première lecture, où il y avait deux verbes importants, « souviens-toi et n'oublie pas ». Souviens-toi et n'oublie pas. Ce sont deux verbes qui semblent très très proches dans notre esprit, en fait, qui disent une chose un petit peu différente. Souviens-toi, ça signifie faire venir à la mémoire. Donc, autour du mémorial du sacrifice du Christ, quand on dit souviens-toi, c'est fait venir à la mémoire la vie du Christ, les événements de la vie du Christ, les événements vécus jusque dans le corps du Christ. Fais-les venir à ta mémoire pour les appliquer à ta propre vie. Seigneur, toi qui as été blessé et qui es passé de la mort à la vie, il y a tel événement dans ma vie qui m'a fait mourir. avec toi que je passe de la mort à la vie. Je fais mémoire de ce que tu as vécu pour le faire descendre sur ma vie. Souviens-toi, fais venir à la mémoire pour l'appliquer sur ta vie, pour appliquer la vie de Jésus, les événements de la vie de Jésus à ta propre vie. Souviens-toi et n'oublie pas, c'est en fait empêcher que ce que nous avons en mémoire tombe dans le néant, tombe dans l'oubli. Oui, l'un, c'est faire venir à la mémoire, l'autre, c'est empêcher que ça disparaisse de la mémoire. Eh bien, l'acte qui nous est donné, c'est n'oublie pas que par ce corps du Christ que tu reçois, tu partages l'engendrement du Père qui dit de toi, celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille bien-aimée en qui je mets mon amour. Puissions-nous, dans la réalité du Christ qui nous donne son corps et son sang, le poids de sa chair, accueillir son histoire qui fait passer de la mort à la vie, et ne pas oublier cet engendrement du Père, cet amour du Père qui nous partage. Alors notre vie déploiera son sens. Alors nous pourrons trouver dans les autres des frères au-delà de nos blessures, avec une histoire non pas tue, non pas cachée, non pas trafiquée, mais ressuscitée et réconciliée. Seigneur Jésus, ton corps livré vient saisir notre histoire personnelle et toutes nos relations. Par ce sacrement de ton corps et de ton sang, que mon histoire, que nos histoires humaines ne soient plus sans racine, sans finalité, et qu'elles se laissent engendrer par le Père. Que la réception de ton corps et de son histoire sainte vivifie notre propre histoire. Engendrés par un même Père, nous pourrons aimer nos frères en humanité et œuvrer avec eux, réconciliés. Amen.